Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce tout nouvel épisode du balado « Une question d'alternative environnementale ». Aujourd'hui, nous allons aborder la question du transport en lien avec les changements climatiques et je serai votre animatrice, Marie-Lou Arsenault. Donc, au Québec, le transport, c'est vraiment la plus grande source de gaz à effet de serre. En effet, il y a 43,3% des émissions de la province qui proviennent de ce secteur. Puis ça fait juste augmenter. Entre 1990 et 2019, ces émissions-là ont connu un accroissement de 34,6%. Puis plus spécifiquement, le transport routier, c'est vraiment lui qui rejette la majorité des émissions liées au transport, et celui qui a connu la croissance la plus forte dans les 20 dernières années, avec une augmentation de 60,1%. Donc ça, c'est seulement dans le transport routier. Face à cette réalité, c'est vraiment inévitable que nous devions repenser notre manière de nous déplacer si on veut limiter les impacts des changements climatiques. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons aborder la question de la dépendance à l'automobile avec notre invité du jour, Jérôme Laviolette. Donc bonjour Jérôme, bienvenue au balado et merci d'être avec nous.
Bonjour Marie-Lou, c'est un grand plaisir de te voir avec toi.
Jérôme, tu es actuellement au doctorat en génie des transports à Polytechnique Montréal et ta thèse porte sur la dépendance à l'automobile. Peux-tu nous parler un peu plus de ton parcours et de comment tu es venu à t'intéresser à ce sujet-là?
Oui, donc j'ai fait mon bac en génie civil à Poly, puis au bac, on a quelques cours en transport, mais très peu, là, ça demeure marginal, je te dirais, dans les cours. Mais dès mon premier cours en transport, qui était avec la professeure Catherine Morancy, qui est une des plus grandes expertes en transport au Québec, j'ai tout de suite senti que c'était le sujet qui m'intéressait. C'est comprendre, finalement, qu'est-ce qui expliquait que les gens choisissaient de se déplacer d'une certaine façon. On dirait que ça m'a tout de suite attiré. Donc, j'ai fait mon bac, j'ai fait un stage de recherche en transport durant mon bac. Ce stage-là m'a dit, il faut absolument que je continue à la maîtrise. La maîtrise, j'étais sur la modélisation de l'offre et de la demande de déplacement par taxi. Mais, n'empêche, à la fin de ma maîtrise, j'ai eu une opportunité d'appliquer pour la bourse de la Fondation David Suzuki. Il y avait plusieurs personnes derrière moi qui avaient déjà un projet qui s'appelait le chantier auto-solo, qui s'intéressait à aller chercher de nouvelles façons innovantes de pouvoir réduire notre dépendance collective à l'automobile. Donc, ces gens-là m'ont appuyé. C'est des différents experts qui étaient là-dessus. Donc, j'ai pu faire un dossier qui est intéressant, je pense, pour la Fondation. Puis, on m'a offert cette bourse-là. Donc, ça m'a permis de me lancer vraiment sur la question de la dépendance à l'automobile. Puis, de le cadrer d'une façon qu'on ne l'abordait pas beaucoup au Québec, c'est-à-dire en prenant la perspective de la psychologie des comportements de mobilité, puis aller comprendre c'est quoi les facteurs psychologiques derrière l'attachement à l'automobile, puis derrière aussi tout ce qui est l'opposition au changement. Puis cette espèce de résistance qu'on a à mettre en place un réel système de mobilité qui soit basé sur autre chose que l'automobile. Donc, vraiment un système, un paradigme de mobilité durable. Ça m'a pris 2 ans faire ça. On est sorti 3 rapports qui sont disponibles en ligne sur la question de la dépendance à l'automobile au Québec, sur les facteurs psychologiques de la dépendance à l'automobile et sur la relation qu'entretiennent les jeunes qui ont 18 à 25 ans à peu près aujourd'hui, là, donc les gens au cégep et à l'université. Puis, ben, suite à ça, je me suis dit, le sujet est beaucoup trop intéressant, il faut que je poursuive là-dessus. Donc, je me suis lancé dans un doctorat sur le même sujet pour aller chercher plus de réponses, finalement, à nos questions sur c'est quoi la dépendance à l'automobile, qu'est-ce qui caractérise la dépendance, comment, finalement, on peut chercher à réduire cette dépendance-là là, dans notre province.
Ben, merci, c'est vraiment intéressant, ton parcours et tes recherches que tu as menées. Avant de poursuivre le balado, est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi, en fait, la dépendance à l'automobile?
Oui, absolument. Donc, pour moi, en fait, la dépendance, peut-être qu'on devrait dire les dépendances, c'est qu'il y a plusieurs aspects à la dépendance à l'automobile. Le mot dépendance, ben, déjà, à la base, il fait un peu référence à une espèce de dépendance physiologique, par exemple, qu'on peut avoir par rapport à la cigarette ou à d'autres substances. Mais dans le cas de l'automobile, c'est un peu différent. Parce que, pour moi, c'est un concept complexe qui va s'appliquer à la fois au territoire, aux individus et à la société dans son ensemble et aux institutions de la société aussi. Ça repose un peu sur la synergie entre l'aménagement du territoire au fil des dernières décennies, en fait, depuis l'après-guerre, un aménagement du territoire qui a été très favorable à l'automobile. C'est-à-dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on a commencé à faire des quartiers où il y avait une ségrégation des activités. Il suffit d'imaginer le quartier typique de banlieue, là, avec des rues un peu en spaghetti, puis où il y a juste des maisons unifamiliales. Mais ce type d'aménagement qui provient des États-Unis est venu comme cimenter parce que dans ce type d'aménagement-là, il y a très peu d'autres options pour se déplacer que l'automobile. Donc, on combine ça avec la construction et finalement le maintien d'une espèce de symbolique et d'une image positive associée à l'automobile, comme quoi l'automobile, c'est la liberté, c'est un symbole de réussite sociale. Si t'as une belle voiture, c'est parce que t'as de l'argent, c'est parce que tu réussis bien, ça démontre un peu qui tu es, tout ça. Donc, ça s'insère. À la fois, on construit des quartiers où tu n'as pas le choix d'avoir l'automobile, puis après ça, on vient dire aux gens, ben, regardez, l'automobile, c'est plus qu'un simple outil de déplacement, c'est aussi un symbole, c'est aussi une façon de d'exprimer qui vous êtes. Puis je vous dirais que, tu sais, je te dirais que l'archétype un peu de cette dépendance-là, ben, c'est la réussite sociale d'un propriétaire d'une grande maison ou d'une propriétaire d'une grande maison en banlieue avec un garage double et plusieurs véhicules qui vont habiter dans une banlieue qui va être accessible à peu près uniquement en automobile. Ces gens-là vont avoir généralement une bonne qualité de vie. Un des éléments peut-être moins bons de leur vie, c'est le temps qu'ils vont passer dans le trafic, mais c'est secondaire pour ces gens-là parce que tout le reste, c'est très bien. Et donc, finalement, il y a quand même des bénéfices individuels que les gens vont tirer de posséder et d'utiliser une automobile dans un système de transport et d'aménagement du territoire qu'on pense depuis 70 ans pour l'automobile. Donc oui, c'est sûr, avoir son auto, quand tout est pensé pour l'auto, ben, c'est sûr que ça a des avantages. Mais le problème, c'est que quand tout le monde commence à avoir son automobile et commence à l'utiliser pour à peu près tous ses déplacements, en découle une quantité énorme de conséquences, puis on pourrait y revenir, là, je vais les passer brièvement, là, des conséquences collectives de l'automobile, mais aussi du système de transport entier qui est centré sur l'automobile. Donc, la difficulté, c'est que la dépendance, c'est qu'on a de la misère. À la fois, les individus vont être attachés à leur mode de transport, autant en raison des aspects symboliques et affectifs à l'automobile, mais aussi en raison des aspects structurels. On a construit des quartiers où c'est difficile de faire autrement qu'avec l'automobile. On a une dépendance sociétale à l'automobile, c'est-à-dire que la société dans son ensemble, les institutions, donc les paliers gouvernementaux, sont incapables de mettre en place des solutions qui ne vont pas dans le même paradigme et qui ne vont pas favoriser l'automobile. Puis un simple exemple actuellement, notre solution pour les gaz à effet de serre en transport, c'est de favoriser l'auto électrique. L'auto électrique, elle ne vient absolument pas nous sortir du paradigme de mobilité qui est centré sur l'automobile. Puis, ben ça, c'est très fort parce qu'après ça, donc ces résistances individuelles, ces résistances collectives, ces résistances institutionnelles, ces résistances politiques au changement va faire que, en tant que société, ben on est toujours pris dans le même modèle. Tout changement est vraiment très difficile à mettre en place. Juste les débats qui ont lieu actuellement sur la densification du territoire. En pratique, ça se bute à toutes sortes de résistances du pas dans ma cour. Les gens veulent pas avoir des tours d'habitation qui viennent défigurer leur quartier, même s'il y a en fait toutes sortes d'autres types de densification beaucoup plus douces que ça. Bref, c'est un peu un nouveau concept de dépendance à l'automobile. Tout ça est un peu imbriqué ensemble, puis les différents éléments se renforcent mutuellement là, pour nous donner une société qui est très, très, très dépendante de ce mode de transport.
Donc, pour résumer, la dépendance à l'automobile, si j'ai bien compris, c'est un mélange entre un aménagement qui est fait pour favoriser l'utilisation de l'automobile, le fait que l'automobile, dû à cet aménagement-là, soit un symbole de liberté, et ensuite que ça devient également un symbole de statut social, d'une certaine réussite sociale. Donc, ça vient vraiment chercher plusieurs aspects, autant de notre dimension psychologique, mais aussi de l'environnement autour de nous qui va nous pousser à utiliser l'automobile dans tous nos déplacements. Puis, au-delà de ça, on sait que les voitures sont polluantes à cause de la combustion des énergies fossiles, donc la combustion du gaz. Mais est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi les autres impacts sur l'environnement qui découlent de l'utilisation des automobiles et de toute l'infrastructure qui est mise en place pour les déplacements par automobile?
Bien, c'est une excellente question parce qu'en fait, quand tu la poses aux gens la question « Ah, est-ce que la voiture est polluante? » Ben oui, les gens, ils savent bien que ça émet des gaz à effet de serre. On se le fait marteler tellement depuis des années. C'est aussi lié directement à leur comportement. Je prends ma voiture, je fais 100 km, ben j'ai produit un certain nombre de GES. Au total, dans mon année, ça me donne plusieurs tonnes de GES qui sont associées à l'automobile. Je pense que c'est à peu près 4 tonnes par ménage de GES qui sont produites juste par l'utilisation de l'automobile, ce qui est quand même énorme. Mais il y a toutes sortes d'autres conséquences, comme tu dis, sont des conséquences que j'appelle systémiques, qui découlent notamment de notre aménagement du territoire. Le fait qu'on ait pensé aménager pour l'automobile, ça veut dire s'étaler, ça veut dire l'étalement urbain, ça veut dire accaparer des terres agricoles. Dans le Grand Montréal, les terres agricoles de la vallée du Saint-Laurent, ce sont les terres les plus fertiles au Québec. Dans le Grand Montréal, ce sont des terres extrêmement fertiles. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on rase des champs, puis on met des quartiers super peu denses où les gens n'ont pas le choix de se déplacer en automobile. Les infrastructures, les routes que ça prennent aussi des emprises énormes sur le territoire. Ça fait des barrières écologiques. Tous les autoroutes sont des barrières écologiques massives. Quand ça traverse des grands parcs nationaux, c'est un enjeu. Là, si, je sais pas si tu as déjà été sur la route 175 qui relie Québec à Saguenay. Il y a des clôtures. Les orignaux et tout autre type d'animaux ne peuvent pas traverser la route. Ça vient finalement mettre en péril les habitats des espèces naturelles qui habitaient ces territoires-là bien avant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, l'étalement urbain, donc imperméabilisation des sols aussi. Quand on vient bétonner pour faire une ville plutôt que d'avoir des champs ou des forêts, ben, on imperméabilise les sols. Toute cette eau-là, ben, on doit la ruisseler. Il y a une partie qui va ruisseler dans nos cours d'eau. y a de la pollution qui découle de ça, donc qui va se retrouver dans nos rivières. La pollution de l'air, c'est un effet important aussi. La pollution de l'air, c'est un enjeu majeur. Les gens ne réalisent pas, mais il y a des rapports en santé publique. Les chiffres exacts, mais c'est plusieurs milliers de personnes qui meurent prématurément par année au Canada et au Québec par rapport à la pollution de l'air. D'autres impacts environnementaux auxquels on peut penser, ben c'est les impacts environnementaux qui ont lieu ailleurs aussi. Une voiture, c'est beaucoup de matériaux. Les voitures électriques, c'est encore plus de matériaux, notamment en raison des batteries. Il y a toutes sortes de conséquences environnementales à l'extraction des matières premières qui sont nécessaires pour construire nos autos. Des autos qui sont arrêtées, sont stationnées 95% du temps. Le téléphone, notre lit, notre maison, notre ordinateur, c'est des éléments qu'on utilise énormément plus que l'automobile en termes d'intensité d'utilisation. Donc, c'est vraiment pas la meilleure utilisation des ressources. C'est toutes sortes d'autres exemples là, auxquels on peut penser qui sont liés là, un peu à l'ensemble du système là, qu'on associe à l'automobile.
C'est vraiment fou, en effet, à quel point les conséquences vont plus loin que l'émission de gaz à effet de serre, mais ça a vraiment un impact sur la faune, sur la pollution de l'air.
Je suis certain que j'en ai oublié, mais ça, c'est ça, c'est les conséquences environnementales. Puis au-delà des conséquences environnementales, il y a des conséquences économiques, c'est les conséquences de la santé publique qui sont majeures aussi, et des conséquences sur les inégalités sociales. Un système de transport qui est centré sur l'automobile, c'est le système le plus inéquitable qu'on peut penser, qu'on peut imaginer. N'importe quel système qui est centré davantage sur le transport collectif puis sur le transport actif va être beaucoup plus équitable pour les populations les plus défavorisées qu'un système qui demande à tous d'avoir une voiture pour se déplacer.
Effectivement, c'est quelque chose qui m'a vraiment accroché quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là, à quel point les conséquences vont influencer toutes les sphères de la société et ça va pas être des conséquences positives. Donc, je trouvais ça vraiment important d'en parler et merci de souligner aussi l'aspect de l'inégalité parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on oublie, mais toutes les personnes qui ne peuvent pas conduire pour des raisons XY, le fait qu'ils n'aient pas d'autres options pour se déplacer, c'est vraiment terrible en fait pour ces personnes-là. Là, on a déjà abordé précédemment un petit peu la question de la voiture électrique et du fait que c'est une solution qui est vraiment mise de l'avant pour régler les émissions de gaz à effet de serre liées au transport. Est-ce que tu peux nous expliquer plus en profondeur pourquoi en fait c'est pas une solution qui est viable pour le futur de la mobilité durable?
Ben, tout simplement parce que vraiment les GES de la voiture électrique sont pas zéro. Là. Toutes les recherches, les montres, les études d'analyse de cycle de vie qui ont été faites indiquent que les voitures électriques, en raison de la batterie qui est considérable, émettent beaucoup plus de gaz à effet de serre lors de la production qu'une voiture conventionnelle. Après ça, ça se résorbe après quelques années généralement. La balance, ça va changer. Ça va changer aussi selon l'approvisionnement en électricité. Au Québec, on est chanceux. 99% de l'électricité provient de sources renouvelables. Donc, au moins, il y a ça. Quand tu bloques ta voiture électrique chez toi, mais que tu es alimenté par des centrales au charbon, le gain est moins là. Mais au Québec, on n'a pas cet enjeu. Donc, la voiture électrique, les gaz à effet de serre, ils sont pas nuls. Il y a quand même des gaz à effet de serre qui sont produits et qui sont plus importants que la voiture conventionnelle lors de la production. Ensuite, ça c'est un des enjeux. Finalement, on exporte des gaz à effet de serre additionnels à l'extérieur. C'est comme si on importe des voitures, quand on commence à les rouler, au Québec, ça produit zéro, mais ailleurs, ça produit. Ensuite, la voiture électrique, ça règle pas tous les autres enjeux qui sont liés au système de transport qui est associé à l'automobile. Des exemples. Est-ce qu'une voiture électrique prend moins de place dans le trafic qu'une voiture conventionnelle à essence? Non. Donc, même enjeu, ça contribue à la congestion. La congestion, ça a des impacts sur notre économie. Ça coûte à peu près 4,5 milliards de dollars par année dans le Grand Montréal. C'est un estimé qui avait été, c'est l'estimé le plus récent, donc c'est considérable. Ça a un impact sur la santé psychologique des gens. Ça ajoute un stress. Ça a un impact sur le bruit. Ça a un impact sur la sécurité routière. Ça ne règle pas les enjeux d'occupation d'espace. La voiture est fondamentalement un mode de transport inefficace en termes d'espace en ville. Avec la densité de population qu'on a dans nos villes, à Montréal, notamment dans les quartiers centraux, si tout le monde se déplace en automobile, oublie ça, là. Il y a juste pas l'espace pour. Ça ne règle que partiellement les enjeux de pollution de l'air. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la pollution de l'air qui provient du tuyau d'échappement des véhicules. Quand t'es électrique, t'as pas cette pollution de l'air-là, sauf qu'il y a une partie de la pollution de l'air, les particules fines notamment, qui provient de l'abrasion des pneus, du freinage, qui est quand même émise lorsqu'on roule en véhicule électrique. Comme ces véhicules électriques-là, généralement, sont plus lourds parce que la batterie est plus lourde, en fait, cette partie-là de la pollution de l'air qui provient des véhicules électriques est même plus importante que pour des véhicules conventionnels. D'autres enjeux, ça règle pas tous les enjeux. Donc, on parle des enjeux environnementaux, d'étalement urbain, du système de transport automobile. Tous ces enjeux-là sont pas réglés par l'automobile privé. Ça règle surtout pas les enjeux d'inéquité sociale. On a beau offrir 8 000 $ pour l'achat d'un véhicule électrique. Il y a des études qui ont été faites au Québec, des études par HEC Montréal, qui ont dit c'est qui bénéficie de ces 8 000 $-là. Mais je peux te dire que c'est vraiment pas les ménages les plus défavorisés. Bien au contraire.
salaire. C'est beaucoup des hommes dans des ménages qui ont des revenus supérieurs à la moyenne qui vont bénéficier de ces milliers de dollars que le gouvernement nous distribue. Quel autre élément on peut penser? Donc, en gros, ça ne règle pas l'enjeu. Le transport, c'est le deuxième poste de dépenses des ménages Québec. Puis une bonne partie de ça, très grosse partie de ça, 90% en fait de ces dépenses moyennes par ménage, ça provient de la possession automobile. Si c'est une voiture électrique qui t'a coûté plus cher encore, oui, ça te coûte moins cher de l'essence, mais au départ, son prix d'achat est plus élevé. Ça vient pas du tout régler ces enjeux de dépenses des ménages. Si on pourrait continuer comme ça, mais la voiture électrique, ça ne favorise pas l'utilisation des alternatives à l'automobile. Si tu as payé plus cher ton auto puis qu'elle coûte presque rien à déplacer parce que remplir ton automobile va te coûter quelques dollars plutôt que 70 actuellement, ben, tu vas l'utiliser, ta voiture. Tu l'as payé, elle coûte presque rien marginalement. Ça t'encourage pas à utiliser les alternatives, même si elles sont disponibles. Ça encourage la symbolique de l'automobile. Il y a eu des recherches qui ont été faites justement au Québec qui démontrent que ceux qui ont adopté la voiture électrique, les premiers adopteurs de la voiture électrique, pour eux, c'était pas juste une question environnementale. C'est une façon de montrer qu'ils étaient vertueux à travers leur comportement de mobilité, même si pour l'environnement, c'est moins bon d'avoir une voiture électrique que de ne pas avoir de voiture du tout. Donc, ça fait partie des exemples là que je pourrais continuer à en nommer, mais je pense que ça donne un bon portrait de pourquoi la voiture électrique, c'est pas un enjeu. Puis un autre élément, en fait, dernier point qui commence à ressortir de plus en plus, c'est que ben on va manquer de matériaux, en fait. Pour convertir l'ensemble de la flotte de 2 milliards de véhicules actuellement sur Terre aux voitures électriques, de plus en plus d'estimés nous disent qu'on n'a pas assez de lithium pour les batteries, on n'a pas assez de terres rares qui rentrent dans la production des batteries aussi, on n'a pas assez de toutes sortes d'autres matériaux là qui sont nécessaires à la production des batteries pour pouvoir produire tous ces véhicules neufs là pour remplacer des véhicules existants. Donc, c'est une consommation extrêmement intensive de ressources et l'extraction de toutes ces ressources-là, ben produit énormément. Le gaz à effet de serre a des enjeux sociaux importants dans les pays où certains types de matériaux sont exploités. Donc, vraiment, là, on ne règle pas la majorité des enjeux associés à un système de transport centré sur l'automobile avec la voiture.
Ben oui, effectivement, ça ne fait que transposer le problème. Remplacer toutes les voitures qui existent en ce moment par des voitures neuves qui sont électriques, ça ne fait qu'encourager la surconsommation et la surproduction qui est extrêmement taxante sur l'environnement. L'aspect de la pollution de l'air avec les pneus, c'est vraiment intéressant, j'avais jamais entendu ça. Donc ça, c'est encore un aspect de plus. Puis, on peut vraiment voir qu'il y a un statut associé à la possession d'une voiture électrique. Dans notre entourage, quelqu'un qui a une voiture électrique, ça paraît super bien. Quelqu'un qui a une Tesla, on est tous un peu impressionnés. Donc la symbolique est vraiment puissante. Et au final, c'est un peu contre-productif dans le fond, là, tout ça.
C'est contre-productif, puis Tesla, je pense, c'est le plus gros exemple. Il y a eu beaucoup de recherches scientifiques dans plusieurs pays du monde qui ont été faites sur l'effet Tesla, puis vraiment, il y a cette symbolique énorme qui est associée à la Tesla. Un autre des éléments, tu sais, c'est que, faut être clair ici, là, à égal, l'auto électrique, c'est mieux qu'une auto à essence. Le problème, je pense, c'est le fait qu'on mise toutes nos solutions de transport climatique sur la voiture électrique. Pour moi, il est là l'enjeu. On utilise des fonds publics, l'argent public, pour donner des rabais à des ménages qui sont vraiment les plus aisés de la société pour qu'ils s'achètent des véhicules électriques, qu'ils s'achètent plus de véhicules. Même qu'il y a des recherches qui ont été faites en Norvège. Norvège, je ne sais pas si tu le sais, mais c'est l'un des endroits où l'auto électrique est la plus avancée. Ils ont plus de 50% des ventes de véhicules sur les voitures électriques. Ils ont proportion de leur flotte totale de véhicules au pays, c'est la plus grande proportion au monde de véhicules électriques. Ça fait longtemps qu'ils les achètent. Ce qu'on a observé, c'est que tout ce qui a été mis en place pour favoriser l'utilisation des véhicules électriques, au final, ça a augmenté la motorisation. Les gens, il y a beaucoup de gens qui vont s'acheter un véhicule électrique, mais qui vont pas nécessairement vendre leur véhicule à essence. Donc, les gens se ramassent avec deux véhicules. Mettons que tu as deux adultes dans le ménage, tu as deux véhicules. Ben, ce ménage-là va utiliser davantage l'automobile qu'un ménage de deux adultes qui va avoir juste un véhicule. Donc, au final, il y a des effets rebonds comme ça. Les gens conduisent davantage leur véhicule électrique, justement, parce que le coût marginal d'utilisation est très faible. Puis les gens se disent en plus, hey, ma voiture, elle est électrique, elle pollue pas. Je peux l'utiliser autant que je veux. C'est comme si ça les dédouane de faire tout effort là, pour réduire la utilisation de l'automobile, parce que anyways, je pollue pas quand je l'utilise. Donc, c'est ça. Ce que moi, mon problème, c'est vraiment l'emphase qu'on met là-dessus comme solution à nos enjeux environnementaux, alors qu'on devrait miser plutôt sur la démotorisation et sur vraiment l'utilisation des alternatives. Après ça, je pense qu'il y a des choses qu'on devrait rendre électriques en priorité. Tous les véhicules commerciaux qui roulent énormément, tous les véhicules, par exemple, on peut penser aux taxis. Les taxis, là, ça fait vraiment plus de kilométrage par année qu'une voiture moyenne. Ça, ce sont des types de véhicules qui devraient être électriques. Les voitures d'autopartage, comme une auto, devraient avoir des véhicules électriques avec des très longs ranges de distance. C'est des voitures qui sont énormément plus utilisées que les voitures personnelles. Ça devrait être électrique. Toutes les flottes commerciales de livraison devraient être électriques. Les gens pour qui on devrait favoriser l'électrique, c'est les gens aussi qui habitent en région. Si tu habites en région éloignée et que tu n'as aucune alternative à l'automobile, ben en ce cas-là, en effet, tu devrais avoir accès à un rabais gouvernemental peut-être pour avoir un véhicule électrique. Il y a Les gens qui habitent en ville, je suis désolé, là, mais pour moi, c'est un non-sens qu'on donne de l'argent pour s'acheter un véhicule électrique alors que tu as des options de transport collectif, de transport actif autour de toi pour faire tes déplacements quotidiens. C'est une perte, je pense. C'est de l'argent qui va pas au bon endroit, finalement.
Effectivement, même si la voiture électrique n'est pas une solution au gaz à effet de serre lié au transport, ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'utilité. Donc, c'est bien aussi de rappeler que ce n'est pas que du mauvais. Merci pour ça. Puis, ça va être parfait pour aller vers la prochaine question. Et c'est à savoir... À quoi ça ressemble un futur de mobilité durable et à travers ça, c'est quoi les solutions à la dépendance à l'automobile?
Donc, c'est quoi les solutions? Ben, en fait, il faut vraiment prendre une approche holistique. Ça, je le répète, quand je fais des conférences sur le sujet, il n'y a pas une solution, il y a, comme tu dis, des solutions nécessaires. Ça part de l'aménagement du territoire. Ben, là, on est pris avec nos banlieues qu'on a construites depuis les années 50. Ben, un, est-ce qu'on est capable de transformer ces banlieues-là, de densifier tranquillement ces banlieues-là? Pour que le transport actif et le transport collectif, notamment, si on veut du transport collectif lourd, les gens disent toujours « j'ai pas d'offre en transport collectif ». Oui, mais si t'es au fond de ton cul-de-sac en banlieue, c'est sûr que t'as pas d'offre. Le transport collectif, ça fonctionne pas dans des environnements peu denses, ça prend une densité de population nécessaire. Donc, il faut qu'on cesse immédiatement d'étaler toutes nos villes du Québec. Les futurs développements doivent se faire à l'intérieur des périmètres qui sont déjà urbanisés. On doit densifier nos milieux. Il y a différentes approches qu'on peut prendre. Ça ne veut pas dire mettre des tours comme on voit au centre-ville de Montréal. Nos quartiers centraux de Montréal, avec nos immeubles à 2-3 étages, c'est des quartiers qui sont extrêmement denses. Ben, c'est ça, une densité intéressante. Montréal, en fait, est même reconnu à l'échelle mondiale par les urbanistes et les planificateurs urbains parce qu'on a une densité, ce qu'ils appellent le missing middle dans beaucoup d'endroits. On a une densité de population qui est vraiment intéressante sans avoir des grandes tours qui rendent une qualité de vie qui est très, extrêmement appréciable dans nos quartiers centraux. Donc, comment est-ce qu'on peut reproduire ça dans les nouveaux quartiers qu'on fait? Donc ça, c'est sur l'aménagement du territoire. Puis quand on planifie, tu sais, il faut planifier une mixité d'usage. C'est pas normal que tu sortes de chez toi puis que dans un rayon d'un kilomètre, tout ce que t'as, c'est d'autres maisons familiales. Il faut que t'aies des opportunités à proximité. Il faut que t'aies des commerces de proximité pour te permettre de faire des déplacements à pied, à vélo. Que ce soit quand tu vas te rendre à la station de métro ou de train, tu vas pouvoir t'arrêter à l'épicerie, attraper quelques trucs, à la pharmacie, etc. Tu vas avoir des cafés. Donc, tout ce développement-là, il faut qu'on l'oriente dans les corridors de transport collectif lourd. On a des projets intéressants de transport collectif qui sont en construction, qui sont promis, qui s'en viennent. On peut penser au réseau express métropolitain, le REM. Il y a beaucoup de critiques au REM, mais une des choses, c'est qu'il faut absolument qu'on favorise la densification autour des stations du REM pour attirer le plus de ménages dans ce type de quartier. Puis, on sait qu'il y a une demande latente pour ce type de quartier marchable, qui sont faisables à vélo, qui sont pratiques pour le transport collectif, parce qu'on a juste à regarder le prix de l'immobilier dans les quartiers centraux de Montréal. Il est extrêmement élevé, donc il y a vraiment une demande pour ce type de quartier. Donc ça, c'est au niveau de l'aménagement du territoire. Il y a d'autres éléments qu'on peut faire là, pour jouer plus sur la psychologie. Donc, ben déjà, moi, je légiférerais pour encadrer ou limiter au maximum la publicité automobile. C'est pas normal qu'on investisse pour réduire l'utilisation de l'automobile, mais en même temps, tout ce qu'on continue à voir à la télévision, dans les journaux, sur les panneaux publicitaires, c'est des annonces de gros VUS. Nous sommes beaucoup qui prennent beaucoup d'espace, qui sont un danger considérable sur la route en termes de sécurité routière. Donc, légiférer pour limiter au maximum, encadrer la publicité automobile, ça c'est le minimum. Puis à mon avis, on devrait même l'interdire comme on a interdit la publicité sur la cigarette. Donc ça déjà, ça éviterait parce qu'on viendrait réduire l'attractivité un peu symbolique de l'automobile s'il y a pas, tu sais, on est plus bombardé constamment par ces publicités automobiles. Les gens disent que ça n'a pas d'impact, mais c'est pas vrai. C'est juste que les gens aiment pas dire qu'ils sont influençables, mais ça a une incidence. Ça a une incidence. Puis, comme je trouve ça dommage aussi que des sociétés d'État comme Radio-Canada continuent à avoir des publicités automobiles. Moi, je commencerai par là. Ensuite, au niveau des autres solutions qu'on peut mettre en place. Ben, évidemment, mettre des alternatives en place, transformer nos quartiers. Donc, il y a la façon dont on construit des nouveaux quartiers, mais il y a transformer nos quartiers existants. Il y a mettre davantage d'infrastructures cyclables, bonifier le transport actif, collectif. Puis, bonifier le transport collectif, ça veut dire mettre davantage de lignes de bus. Planifier le transport collectif lourd, s'assurer que les projets qu'on a réfléchis puis qui sont en place, que ce soit le tramway à Québec, le REM à Montréal, le tramway à Gatineau, ce sont des projets qui doivent se faire en priorité, qu'on investisse l'argent là-dedans. Mais ça veut aussi dire bonifier l'offre de service actuelle, que les bus passent plus souvent, que les bus ne soient plus pris dans le trafic. C'est pas normal qu'un bus qui a 50 personnes dedans à l'heure de pointe soit pris derrière des voitures où les gens sont tout seuls dans leur voiture. C'est un non-sens extrême. Il y a vraiment une iniquité énorme pour les gens qui choisissent de prendre le bus. Des fois, parfois, qui n'ont pas le choix. Mais bref, que ces gens-là soient coincés dans le trafic causé par des gens tout seuls dans leur voiture. Il faut qu'on sorte les bus de la congestion. Il faut qu'on les mette sur des voies réservées. il faut que clairement le bus soit plus efficace, surtout plus à l'heure, plus ponctuel. Il faut que tu puisses te dire, quand je vais prendre le bus, je sais que je vais arriver à l'heure, à mon travail, à mon rendez-vous, etc. Ça se fait dans plein d'autres pays. On a juste à regarder certains pays comme le Japon, la Suisse, les Pays-Bas, c'est des pays où le transport collectif, il est fiable et ça fonctionne parce que quand c'est fiable, les gens l'utilisent et ça vient aussi enlever le stigma qui est lié au transport collectif peu fiable, qui est encore lié à cette question symbolique. Je ne vais pas prendre le transport collectif. Les gens jugent négativement le transport collectif, particulièrement en banlieue, parce que justement, c'est pas fiable. Donc, il faut travailler à changer ça. Si on interdit les publicités automobiles, ou si on les interdit pas, est-ce qu'on peut taxer les publicités automobiles, puis, à l'inverse, être capable, avec cet argent qui a été levé là, de faire des publicités pour promouvoir la mobilité durable? Il y a des fois, les gens, c'est pas qu'ils veulent pas utiliser le transport collectif, c'est pas qu'ils veulent pas utiliser le vélo ou le vélo électrique, ils savent pas nécessairement comment, ils sont pas au courant des options, ils savent pas que Communauto a de nouveaux véhicules à proximité de leur lieu de domicile. Donc, il faut mieux promouvoir la mobilité durable, la rendre attractive, la rendre intéressante, faire que ce soit cool, finalement, d'utiliser la mobilité durable. C'est niaiseux, mais si la publicité automobile a un impact sur les ventes automobiles, puis la preuve que ça a un impact, ben, les compagnies automobiles continuent d'investir des centaines de millions de dollars. Au Québec, c'est estimé à 500 millions de dollars par année. Les investissements des constructeurs automobiles en publicité, 500 millions. C'est qui les paye, ces 500 millions-là? Ben, c'est les consommateurs qui s'achètent un véhicule. Donc, on les paye, eux, ils jugent que ça vaut la peine de faire des publicités. Donc, à l'inverse, il faut qu'on fasse des publicités pour la mobilité durable. Quand je dis d'accompagner les gens au changement de comportement, donc, comme je dis, mieux promouvoir les alternatives. Si une alternative est disponible, mais qu'elle n'existe pas dans ton choix, dans tes options, parce que tu sais pas qu'elle existe, mais comment veux-tu la considérer? C'est un peu niaiseux, mais c'est un peu la base. Tu vas pas acheter un produit dont tu n'as aucune idée de l'existence. Puis, je donne un exemple pour ça. On va faire une nouvelle voie réservée. On va mettre sur cette voie réservée-là une ligne de bus express qui va t'amener au centre-ville en 15 minutes. Si tu prends pas le transport collectif, ou même si tu le prends, puis tu sais pas que la STM a mis en place cette nouvelle ligne de bus express qui est super efficace, qui est pas prise en trafic, comment veux-tu que les gens l'utilisent? Tranquillement, ça va finir par se faire connaître. Mais comment est-ce qu'on peut le faire connaître? Genre vraiment rapidement, dès que c'est mis en place, comment est-ce qu'on peut faire un blitz pour que davantage de gens soient intéressés à prendre cette ligne-là? Puis, ben, on peut la faire connaître, puis après ça, on peut donner des incitatifs. Tu habites dans un rayon de 5 km de marche d'un arrêt de cette nouvelle ligne de bus express, ben peut-être que tu pourrais recevoir dans ta boîte aux lettres des titres de transport collectif. On te dit, hey, voici une semaine, tu peux l'utiliser gratuitement pendant une semaine, cette ligne-là, tu as accès à l'ensemble du transport collectif à Montréal pendant une semaine, ou peu importe, juste pour prendre cette ligne-là, gratuitement. Ça va permettre aux gens de voir, hey, finalement, c'est pratique, je peux l'utiliser, c'est bien plus rapide que je pensais. Ça, c'est un autre élément. Les gens vont toujours dire que le transport en commun, c'est plus long. Oui, mais souvent, c'est moins long que ce qu'ils pensent. La différence entre l'automobile et le transport collectif est souvent moins long que ce que les gens pensent parce que les gens surestiment le temps que ça prend en transport commun et sous-estiment le temps que ça prend en automobile, notamment parce qu'ils sous-estiment la congestion et sous-estiment le temps de recherche de stationnement à destination. Puis après ça, ben, donc tout ça, donc dans tous ces messages qu'on peut faire, ben, l'idée, c'est de cadrer les messages le plus possible pour que ça vienne toucher les gens. Il y a différents argumentaires qu'on peut utiliser. Un peu comme en publicité, on n'est pas interpellé par tous les types de publicité. Les publicités, ils vont cibler les gens, ils segmentent la population, puis on dit, ce produit-là, on pense que ce serait plus efficace à ce segment de population-là. Fait qu'on va cibler nos publicités pour ce segment de population-là. Mais on peut faire la même chose pour la mobilité durable en général. Il y a toutes sortes de méthodes qui ont été testées beaucoup en Europe pour promouvoir la mobilité durable avec des approches de marketing ciblées, où vraiment on va cibler les gens qui ont le plus de chances de changer, qui sont le plus ouverts à changer, puis on va leur donner les arguments qui vont considérer ces options-là pour réduire notamment leur déplacement en automobile. Changer de comportement, que ce soit en transport ou dans plein d'autres éléments, c'est pas facile en général parce que ça demande un peu plus d'effort mental et physique généralement que de rester dans notre routine. Donc, il y a toutes sortes de processus qui ont été développés, notamment en santé publique, pour amener les gens à arrêter de fumer, des processus de changement de comportement où à chaque étape de changement de comportement, on vient te donner les bons arguments, on vient te donner des incitatifs pour continuer à changer, on vient t'encourager de toutes sortes de façons. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre à grande échelle ces stratégies de soutien au changement de comportement-là de façon vraiment systémique, surtout dès qu'on met en place des nouvelles infrastructures. Ça va être important de le faire. On a le REM qui s'en vient, on va avoir la Ville de Montréal continuer à mettre en place des infrastructures cyclables de qualité. Comment est-ce qu'on peut, quand on met en place ces infrastructures-là, faire un blitz pour vraiment encourager les gens à les adopter? Bon, en tout cas, pour l'instant, ça résume. Il y a peut-être des éléments qui t'ont accroché et tu voudrais que j'explore un peu plus avec toi, là.
Merci pour cette réponse complète. C'est vraiment intéressant, tous les éléments que tu as apportés. Pour résumer, pour les auditeurs et les auditrices, donc on a parlé de l'aménagement, donc densifier les quartiers, apporter une mixité d'usage, c'est-à-dire offrir des commerces de proximité où on n'a pas besoin d'utiliser la voiture pour se rendre. Au niveau de la psychologie, c'est encadrer la publicité pour les automobiles, puis aussi promouvoir la mobilité durable, promouvoir les alternatives et donner des incitatives là aux citoyens et aux citoyennes pour utiliser ces alternatives-là. Il y a aussi, évidemment, améliorer les infrastructures qui sont déjà en place et en mettre des nouvelles, bonifier l'offre de services et augmenter la fiabilité. Donc, super intéressant. Moi, quelque chose qui m'intéresse particulièrement là-dedans, c'est la question de la qualité des infrastructures. Parce que quand on parle des infrastructures, moi, je pense notamment aux infrastructures cyclables. C'est pas suffisant d'avoir une infrastructure. Donc, toutes les infrastructures ne s'équivalent pas. Et c'est pas parce qu'une piste cyclable que c'est une piste cyclable sécuritaire, par exemple. Donc, il y a plein d'éléments qui sont aussi un petit peu plus complexes, qui sont vraiment intéressants. Mais j'aimerais plutôt passer vers la prochaine question. C'est quoi les barrières qu'on retrouve face à ces changements-là qu'on veut apporter? Quand on veut diminuer la dépendance à l'automobile, c'est quoi les obstacles auxquels on se bute?
Ben, je vais faire un lien avec ce que tu viens de dire, justement, par rapport aux infrastructures sociales, parce que je pense que c'est un excellent exemple. On le sait, pour que les gens utilisent le vélo, le premier élément, c'est la sécurité. Il faut que les gens se sentent en sécurité, il y a une perception de sécurité. Et ça, pour tous âges, pour tout genre, il faut que les enfants de 5 ans et que la grand-mère de 72 ans se sentent en sécurité quand elle va se déplacer avec. Puis on sait ce qui fonctionne, c'est quand c'est séparé physiquement du trafic automobile. Le réseau express vélo sur Saint-Denis, c'est maintenant la voie cyclable la plus utilisée à Montréal. C'est pas pour rien. C'est direct, c'est sur une artère. S'il y a des destinations sur Saint-Denis, surtout c'est physiquement séparé, même aux intersections, il y a de la protection, les gens se sentent en sécurité quand ils utilisent le réseau express vélo, le REV sur Saint-Denis. Il faut qu'on développe ça. L'enjeu, évidemment, c'est de mettre en place ce type d'infrastructure-là. Fait que là, on en vient aux barrières. Il y a des barrières actuellement, il y a des barrières au changement de comportement, mais il y a des barrières qui, moi, ça me fascine parce que il y a de l'opposition populaire, citoyenne, à des projets d'infrastructure qui permettraient aux gens de se déplacer autrement qu'en automobile. Tu demandes aux gens pourquoi vous vous déplacez en char, ils vont te dire, j'ai pas d'autres options, le transport en commun, c'est pourri, je peux pas me déplacer en vélo, je me sens pas en sécurité. Ah, parfait, mais on va vous mettre des infrastructures cyclables. Mais pour ça, il faut qu'on enlève une voie de stationnement sur votre rue. Ah, ben non, je peux pas mon stationnement sur rue. Mon stationnement où je mets mon véhicule privé qui m'appartient sur la voie publique, mais surtout pas enlever ça, là. Fait que, il y a toute une opposition. L'enjeu, souvent, en fait, c'est que cette opposition-là, premièrement, elle vient de minorité de gens. En fait, surtout dans les quartiers qui sont déjà, où les gens utilisent déjà beaucoup d'autres modes et où les taux de possession automobile sont faibles, donc la majorité des quartiers centraux de Montréal, l'opposition à des projets d'infrastructures cyclables ou des projets de voies réservées pour autobus, par exemple, qui viennent enlever de l'espace à l'automobile, provient d'une minorité de détenteurs automobiles, de gens qui possèdent une voiture et qui la stationnent généralement sur la rue, va provenir de quelques commerçants qui vont penser à tort que la majorité de leurs clients vont venir en automobile, alors que beaucoup plus qui le pensent vont venir à pied, à vélo, en transport collectif. Donc, une opposition comme ça, ça va, les médias vont donner beaucoup d'attention, je trouve, trop à mon avis, à ces quelques oppositions-là. Ça peut faire dérailler des projets qui bénéficieraient finalement vraiment beaucoup plus à la collectivité. Transformer une voie de stationnement automobile en une voie cyclable, sécuritaire, ça va bénéficier à beaucoup plus de gens que les quelques centaines de personnes qui vont stationner leur automobile sur la rue. Je comprends pas, on dit qu'on veut prioriser la mobilité, mais on continue à prioriser le stationnement sur rue. Je pense que ça s'en vient tranquillement à l'opposition, au fur et à mesure que les gens voient les bénéfices des infrastructures cyclables de qualité, puis que la part modale du vélo augmente à Montréal, il y a de moins en moins d'opposition, mais l'opposition, elle va être là. L'opposition, elle existe à Copenhague, à Amsterdam, elle est très minime, mais elle existe encore, donc il faut pas se décourager par ça. Des fois, ça prend un peu de volonté politique, parce qu'on sait que quand on a un bon projet de transport actif ou collectif, que les gens vont l'utiliser, que les gens vont sentir que leur qualité de vie s'améliore, ça va être supporté. Un des exemples, Valérie Plante, elle a été réélue, là. Fait que ça fonctionne, les projets d'infrastructure de mobilité durable. Il faut juste en faire plus, il faut avoir la volonté de le faire, puis il faut pas s'arrêter aux barrières de certaines oppositions citoyennes.
Effectivement, on peut souvent voir qu'il y a une certaine incompréhension par rapport aux infrastructures qui améliorent l'offre de transport actif et de transport collectif, parce qu'effectivement, ça va bénéficier aussi aux détenteurs d'automobiles. Donc, effectivement, il y a une certaine incompréhension qu'on peut voir, et ça fait qu'il y a une opposition à ces projets-là qui est minoritaire, mais effectivement vocale. Qu'on va aller vers notre dernière question. Qu'est-ce qu'une citoyenne ou qu'un citoyen moyen peut faire pour contribuer à diminuer la dépendance à l'automobile?
Ben, c'est une super question à nouveau, parce que évidemment, les gens veulent savoir qu'est-ce qu'on fait.
Ben, évidemment, là-bas, je suis certain que les gens qui écoutent le podcast sont déjà ce qu'on appelle des convaincus dans le milieu, là. C'est-à-dire que c'est déjà des gens qui ont probablement des comportements de vie assez exemplaires pour utiliser en général la voiture au minimum. Donc, pour ces gens-là, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, là? Nous, on a déjà, moi, j'utilise mon vélo tout le temps, j'utilise comme une auto pour sortir de la ville quand j'en ai besoin, je prends le transport en commun, le métro, quand, pour faire nos déplacements. OK, qu'est-ce que je peux faire de plus? Mais qu'est-ce que je peux faire de plus, c'est influencer les autres autour de moi. Déjà, parler des alternatives. Si t'as des amis qui se déplacent, pas à vélo, ben, tu peux essayer de les accompagner puis leur dire, ben, qu'est-ce qui ferait que tu pourrais déplacer à vélo? T'as-tu déjà essayé? Hey, j'ai un vieux vélo, tu s'attends-tu d'essayer? Je peux t'accompagner, OK, tu sais pas quel trajet prendre, ben, OK, lundi prochain, on va se rendre ensemble au travail, ça tombe bien, bon, t'es pas juste mon ami, t'es mon collègue de travail, on travaille au même endroit, on habite dans le même quartier. Parfait, on se rejoint à tel point de rue, et annonce beau en plus. Viens avec moi, je vais te montrer quel chemin je prends, puis je vais te montrer c'est quoi les pistes cyclables que je prends pour que le trajet soit le plus sécuritaire possible. Donc, c'est vraiment assez de diffuser l'utilisation des autres modes de transport. Si t'es abonné à Communauto et que tu as des gens qui se disent « Ah, je réfléchis à acheter une automobile », ben tu te dis « Ben, vas-tu penser à Communauto actuellement? » Je pourrais leur expliquer comment ça fonctionne. Donc, c'est vraiment cette idée de diffuser les bénéfices des alternatives. Puis, il y a des éléments, puis je pense que je vais revenir au vélo pour ça. C'est niaiseux, mais les bénéfices du vélo, tu les sens vraiment quand tu commences à utiliser le vélo. Les bénéfices sur ta santé psychologique, le bien-être d'avoir la liberté de te déplacer à vélo, puis ça, là, c'est rapporté partout dans le monde. Les gens qui adoptent le vélo comme mode de déplacement, la majorité, surtout quand les infrastructures sont sécuritaires, les gens vont dire « Hey, j'arrive au travail, là, puis je me sens bien, je me sens revigoré, ça fait du bien, c'est agréable. » Ben, il faut être capable de communiquer à ses amis ce sentiment-là, parce que tant que tu l'as pas essayé vraiment, tu peux pas vraiment savoir à quel point c'est bénéfique. Ça s'étend aussi au vélo électrique actuellement. Les gens qui vont dire « Ah, moi, je suis pas vraiment en forme » ou les gens plus vieux, par exemple, ou des parents, ils ont 70 ans maintenant, ils réfléchissent à s'acheter des vélos électriques. Moi, je les encourage là-dedans parce que ça leur permettrait de faire de plus grandes distances. Un vélo électrique, ça transforme une distance à vélo de 10 km qui peut paraître une montagne pour certains en une marche, ce qui est l'équivalent d'une marche de quelques minutes. Donc vraiment, là, le vélo électrique, c'est un autre élément. Si tu l'as pas essayé, tu ne sais pas que ça peut être bénéfique, tu sais pas à quel point c'est génial. Ben, il faut diffuser là, tes alternatives-là. Là, on n'a pas de publicité, comme je disais, pour le faire. Ben, il faut que ça se diffuse socialement. Ça, c'est important. Au niveau citoyen, dernier point, ben, ne pas s'opposer aux infrastructures cyclables, aux infrastructures de transport collectif, et au contraire, les supporter. Voter pour des candidats politiques qui vont proposer des alternatives de mobilité durable. Ça fait partie de ce qu'on peut faire en tant que citoyen, là, pour vraiment arriver à transformer notre société. On peut aller plus loin. On peut écrire des lettres dans les journaux, des lettres ouvertes pour manifester notre désaccord ou notre appui à certains projets. C'est un peu du militantisme. Ultimement, c'est ça qu'on a besoin. C'est du militantisme pour un aménagement du territoire qui est durable, qui est pas centré sur l'automobile. Donc voilà, ça conclut un peu les recommandations sur comment on peut arriver à changer les choses collectives.
Bien, merci beaucoup d'avoir partagé tes connaissances et tes conseils. J'espère vraiment que ça va encourager les auditrices et les auditeurs à parler de la mobilité durable dans leur entourage ou même à l'essayer si ce n'est pas déjà fait. Avant de terminer, je ne sais pas si tu avais peut-être envie de nous partager une recommandation, soit un livre, un film, un documentaire qui pourrait nous permettre d'aller plus loin si le sujet intéresse les personnes qui écoutent.
Ouais, et dernier petit point, si vous êtes propriétaire d'une voiture, que vous l'avez parce que vous devez faire certains déplacements à l'occasion, mais vous ne l'utilisez pas tant que ça, il y a dans les quartiers Antique et Rosemont-Petite-Patrie, puis de Montréal actuellement, le projet Locomotion de l'organisme communautaire Solon. Locomotion, c'est un projet qui, un, te donne accès à des remorques vélos, te donne accès à toutes sortes de vélos, mais aussi te donne accès aux voitures de tes voisins. Puis si toi, t'es propriétaire de voiture, tu peux mettre ta voiture en disponibilité pour d'autres. Donc, c'est un système d'autopartage de personne à personne. Donc, ça permet de créer des liens avec tes voisins dans ta communauté. Donc, super projet. Moi, j'encourage les gens à s'abonner à ça si vous êtes dans les quartiers qui sont desservis par le projet actuellement. C'est une bonne façon de mettre à disponibilité une voiture que vous avez et que vous utilisez pas beaucoup. Au niveau des recommandations, ben, j'ai lu récemment un livre qui s'appelle « Pourquoi pas le vélo » d'un Néerlandais qui s'appelle Van Osteren. Il a donné une conférence à Montréal il y a 2-3 semaines, ou au début d'été, je pense. C'est un excellent livre, je trouve qu'il vulgarise super bien tous les arguments et déconstruise les mythes par rapport à la place du vélo en ville. Donc, c'est un Néerlandais qui a aménagé en France à l'âge de 23 ans, puis là, il a comparé les deux pays. La France n'est pas tellement plus avancée que nous par rapport à ça. Je trouve que c'est vraiment un super livre. C'est un exemple parmi tant. Sinon, il y a le livre de Jeannette Sadek-Khan, qui était l'ancienne Transport Commissioner à New York, qui s'appelle Street Fight, The Handbook of Urban Street Fighting.
mais c'est vraiment comment est-ce qu'ils ont réussi à transformer les rues à New York pour les rendre vraiment plus agréables pour tous les gens qui étaient pas en automobile, finalement. Puis que ça le bénéficie aussi aux gens qui étaient en automobile en réduisant le trafic. Parce que ça, c'est un concept qui est généralement mal compris. Si tu enlèves des voies de circulation automobile, l'effet, c'est pas de créer plus de trafic. Généralement, c'est d'en créer moins. C'est contre-intuitif, mais ça s'appelle la réduction du trafic ou l'évaporation du trafic. Donc voilà, mes deux recommandations. J'amène ça avec Cannes, puis Fight, puis on va pas le vélo de Steinbahn, Westerren. Voilà.
Merci beaucoup d'avoir partagé tes recommandations avec nous. On va les noter dans la description du balado pour que les auditeurs et les auditrices puissent y accéder facilement. Avant de terminer, on voulait savoir si on veut te rejoindre ou suivre, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux nous laisser tes coordonnées?
Oui, c'est toujours un plaisir de répondre aux questions des gens qui peuvent avoir. Écoute, mon adresse courriel, jérôme.laviolette@gmail.com. Vraiment toutes sortes de questions, là. Je suis toujours intéressé à savoir ce que les gens pensent. Donc, voilà, ça me fait grand plaisir. Pour suivre mes travaux, je suis pas super actif sur les réseaux sociaux pour publier mes travaux, mais... Généralement, là, dans mes travaux sortent, j'essaie de faire une liste là, pour un peu les publier. Là, puis, voilà.
Encore une fois, un gros merci d'avoir partagé ton temps avec nous et d'avoir pris la peine de nous expliquer tous les enjeux liés à la dépendance à l'automobile. C'était vraiment un plaisir d'avoir cette discussion avec toi aujourd'hui.
Écoute, comme je te dis, moi, je peux en parler longtemps. C'est un sujet qui me passionne, puis il y a tellement de choses qu'on peut faire, puis il y a tellement à faire pour arriver à avoir une société qui soit plus équitable, plus écologique, en meilleure santé. Beaucoup de ça, ben, ça vient du transport, de la mobilité quotidienne. Fait que je vais continuer à travailler là-dessus pour de nombreuses années encore dans ma vie. Puis, je suis toujours intéressé quand il y a des gens comme toi qui commencent à s'y intéresser, puis ça fait plaisir de partager de tout ce que je sais, là. On continue le combat, là, pour réduire la place de la voiture dans notre société. Parce que je pense qu'il y a toutes sortes de bénéfices qu'on peut en obtenir, là, de réduire la place de la voiture.
Super, merci beaucoup pour ton partage et le travail que tu fais sur la dépendance à l'automobile. Sur ce, nous allons terminer l'épisode de Balado. Vous avez écouté une question d'alternative environnementale avec Marie-Lou Arsenault. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine!